Vous écoutez France Inter, il est minuit. Les infos, Luc Chemla.
Le ciel a grondé ce mercredi soir dans une partie de la France. Des orages accompagnés de puissants épisodes de grêle ont touché plusieurs départements de la moitié nord. De quoi faire de gros dégâts dans certaines parcelles, notamment dans l'Yonne. C'est ce qu'explique Vincent Laroche, viticulteur associé au domaine de la Meulière à côté de Chablis.
Certaines communes ont été impactées par la grêle, mais c'était mélangé avec de l'eau, donc il y a eu des dégâts qui étaient moindres, je dirais. Et puis d'autres communes, notamment dans le nord du vignoble, où là, c'était de la grêle sèche, si je puis dire, sans eau. Et celle-ci a commis de très gros dégâts, puisque certains de mes confrères, malheureusement, ont tout perdu. C'est arrivé à 20h ce soir. L'instant que l'orage se termine et qu'on sorte dans les parcelles de vigne pour constater, la nuit était tombée, donc c'était très compliqué à la tombée de la nuit de faire des estimations. Là où on fera les meilleures estimations, ça va être demain matin au lever du jour.
Et désormais, le département de l'Yonne n'est plus en vigilance orange, mais on en compte encore 17 dans la moitié nord, soit pour orage, soit plus inondation. Les orages qui ont d'ailleurs perturbé le trafic aérien ce mercredi soir à Orly et Roissy. 1,8 tonne. Voici la quantité impressionnante de cocaïne qui vient d'être saisie sur un bateau au large de l'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises. Plusieurs dizaines de sachets étaient à l'intérieur du hors-bord, amarrés sur un ponton. Sans nom, ni immatriculation et avec personne à bord. Les trafiquants sont donc actuellement recherchés. En Haute-Savoie, la permanence des LR dégradée à Annecy. Des menaces de mort ont même été peintes en rouge sur la vitrine, tout comme plusieurs croix celtiques. Matisse sera vengé, a notamment été écrit en référence au meurtre de l'adolescent à Châteauroux dans l'Indre. Le président du parti dans le département annonce qu'une plainte sera déposée ce jeudi. Comme attendu, la mobilisation de ce 1er mai a été bien moins importante que l'an dernier en pleine réforme des retraites. En fait, on est revenu au niveau de 2022. Plus de 210 000 personnes étaient dans les rues ce mercredi en France d'après la CGT en cette fête du travail. Le ministère de l'Intérieur n'en a compté que 121 000 de son côté. Des manifestations étaient organisées un peu partout dans le pays. À Paris, les organisateurs revendiquent 50 000 manifestants. La préfecture, elle, en a recensé 18 000. En ce 1er mai, des manifestations ont également eu lieu en Turquie, particulièrement Istanbul, où la situation a été tendue. 217 personnes ont été interpellées d'après les autorités. Selon le ministère de l'Intérieur, elles ont attaqué les policiers. Aucun lien cette fois avec le 1er mai. En Géorgie, des dizaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues ce mercredi soir. Objectif, protester contre le projet de loi controversé sur l'influence étrangère adopté en deuxième lecture par le Parlement. La police est intervenue pour disperser les manifestants, de quoi provoquer l'inquiétude de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen condamne la violence et appelle le pouvoir à, je cite, « garder le cap vers l'Union européenne ». La France, pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers, c'est ce qui ressort du baromètre annuel du cabinet EY. L'an dernier, 1194 projets d'investissement d'entreprises étrangères ont été enregistrés dans l'Hexagone, un chiffre en baisse tout de même de 5% sur un an. La France devance le Royaume-Uni et l'Allemagne et domine le classement pour la cinquième année de suite. Le PSG est dos au mur après la demi-finale aller de la Ligue des Champions, battue 1-0 ce mercredi soir sur le terrain du Borussia Dortmund. Les coéquipiers de Kylian Mbappé n'auront pas d'autre choix que de renverser la vapeur la semaine prochaine au Parc des Princes lors du match retour. Même s'ils ont eu la possession du ballon et touché les poteaux, les Parisiens n'ont pas réussi à marquer et se sont fait surprendre par l'attaquant allemand Niklas Füllkrug. Et puis au Masters 1000 de tennis de Madrid, le double tenant du titre Carlos Alcaraz éliminé en demi-finale. L'Espagnol a perdu tout à l'heure contre le Russe Andrei Rublev. De son côté, le numéro 2 mondial, l'Italien Yannick Sinner, est blessé et forfait pour la suite de la compétition.
La météo avec le baume Hydradéfense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Le point sur la météo avec Elodie Calac.
Encore perturbés, les orages parfois violents de la nuit entre la Bourgogne, l'Île-de-France et les Hauts-de-France remontent vers le nord et s'éloignent. Les pluies les plus soutenues entre le nord du Centre-Val de Loire et la Normandie également. Ce matin, on retrouve un temps pluvieux sur les deux tiers est du pays, avec des pluies irrégulières sur la partie nord, plus copieuses du massif central vers Rhône-Alpes et le Jura. Il neige sur les massifs du sud. Cet après-midi, peu de changements. Les pluies les plus marquées s'étendront des Alpes et de l'Auvergne vers le nord-est. Le vent souffle jusqu'à 70 km à l'heure en Méditerranée. On trouve des éclaircies tout de même même qui reviennent de la Bretagne vers l'Aquitaine et le Roussillon, mais encore quelques averses. Comptez 6 à 12 degrés ce matin. Cet après-midi, il va faire frais, souvent 12 à 17 degrés, jusqu'à 19 en Alsace et en Corse.
Merci Elodie Calac de Météo France. Vous êtes sur France Inter, il est minuit 5 places. À Jusqu'ici, tout va bien avec Marie Misset et Marine Bausson.
Bonjour Marine.
Bonjour Marie, bonjour les auditeurs.
Bonjour les auditrices. Fut un temps, je travaillais dans la rédaction d'un média en ligne qui s'appelait Combini, qui s'appelle toujours Combini. La difficulté de ces médias, c'est qu'on n'y va pas de son propre chef, on tombe dessus sur son Instagram, sur son TikTok, et il faut donc être assez persuasif en quelques secondes pour ce que le scroller fou que vous êtes tous ne passe pas immédiatement à la vidéo suivante. Cette équation est encore plus difficile quand on veut parler d'urgence climatique à des non-convaincus. Cette fois-là, en particulier, on essayait d'aborder la COP27, sans faire fuir en moins de 3 secondes ceux que le sujet ennuie, c'est-à-dire à peu près tout le monde. On a fini par se dire, il nous faut un humoriste qui s'y connaît. Et un seul nom est sorti du chapeau, celui de notre invité ce soir.
Et cet invité ce soir, c'est justement l'humoriste Verino.
Verino, qui est aussi passionné de science-fiction, ça nous a donné envie de lui présenter un commandant de l'armée. Pourquoi ? Bah pour nous parler du programme de l'armée Red Team, où sont embauchés des auteurs de science-fiction pour que l'armée se prépare au pire.
Et c'est le commandant Jean-Baptiste Collat qui sera notre invité passion catastrophe.
Quant à Marine, elle vous demande à vous qui nous écoutez.
Quel sport vous a vraiment, mais alors vraiment maltraité ? Pour répondre, vous pouvez nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. 01 45 24 7000.
Puis Marine, pour aujourd'hui, tu as testé ce truc un peu ringard, faire du skate avec tes doigts.
C'était pas facile de faire des figures.
Une émission pour faire contre mauvaise fortune, bon cœur ce soir, avec un homme qui essaye d'être meilleur.
Un autre qui envisage le pire au cas où.
Jusqu'ici, tout va bien, l'émission qui chahute les idées, c'est jusqu'à 18h.
France Inter, Marie Misset et Marine Bausson, jusqu'ici, tout va bien.
Bonjour Verino.
Bonjour.
Vous êtes donc humoriste, vous n'avez pas besoin de mettre votre casque.
D'accord.
Vous
ne... Il y a un lien entre ces deux informations.
Oui, c'est que les humoristes n'ont pas le droit. Vous ne venez pas nous vendre des places ce soir, car vous jouez à guichet fermé partout où vous allez, et ce, sans pub, car vous êtes un enfant de YouTube. Vous êtes donc là uniquement pour nos beaux yeux. Un 1er mai, c'est magnifique. Vous vous emparez de plus en plus de sujets qui vous faisaient peut-être un peu peur au début, parce que vous ne vous sentiez pas légitime. Écologie, féminisme, racisme, toujours en flirtant doucement avec l'interdit. Et vous êtes même donc capable de résumer des COP, COP 21, 22, 23, 27, en faisant des blagues, ce qui relève vraiment du miracle. Et ça m'amène à cette question, qu'est-ce qui vous fait marrer dans le climat, Verino ? C'est si drôle que ça, les boucles de rétroaction climatique
mais
qui
ouais.
font qu'on va largement dépasser les plus 4 degrés en 2100. C'est ça qui est marrant.
Mais je crois que c'est ça qui me fait rire, c'est le côté sans espoir. J'aime bien moi ce truc-là où tu te dis, bah, de toute façon c'est foutu, visiblement on y va, on va droit dans le mur, avec tout l'optimisme de l'humain qui se dit, bon bah, de toute façon
on verra
puis,
bien.
Ouais. Et puis je crois qu'il y a aussi un petit peu d'ironie par rapport à ce qu'on représente par rapport à nous-mêmes. Nous, on est persuadés d'être très importants. Et j'ai l'impression que si l'humanité s'autodétruit dans l'univers, ça va être un événement ridicule. Et donc au final, tout ça me permet de prendre de la distance et me permet de me désangoisser.
Et de faire donc des blagues sur scène qui font rire hein, les gens.
Oui, ouais. Vous avez l'air surprise. Ah ouais, bon dis donc, ça c'est marrant.
Oh, ça j'aurais pas dit.
Ah si, tiens, il y a un autre truc qui a arrêté de m'angoisser, figure-toi. On se voit ou on se tutoie ici
Vous faites comme vous voulez, plutôt.
Vous,
on se tutoie avec Marine. Ouais. En général, on vous voit l'invité.
Bon, bah,
Mais si vous voulez prendre cette liberté, personne ne nous écoute. On est le 1er mai, foncez.
Ah ouais, c'est
on peut se nous noyer.
Nous noyons-nous. Alors nous. Non, moi ce qui a arrêté de me faire peur, donc j'ai toujours pas ma réponse, je vais dire tu. Et puis à un moment, je vois si tu dis vous, je redirai vous.
On fait ça.
Voilà, comme on fait
avec les médecins. Vos parents.
C'est une meilleure image. J'ai arrêté de m'angoisser parce que il y a un paquet de trucs qui m'angoissaient, mais parmi tous les paquets de trucs qui m'angoissaient, c'était sur quelle planète vont vivre mes enfants. Et je me suis rendu compte de quelque chose, qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'enfants parce qu'ils se disent je veux pas laisser d'enfants sur la planète. Et je me suis rendu compte d'autre chose, c'est que je pardonne vachement à mes parents mon existence. Je me dis pas du tout c'est eux les responsables de m'avoir foutu sur cette planète là. Et donc j'ai l'impression que mes enfants vont me pardonner pareil. Et donc j'ai l'impression j'avoue que ça ne me regarde plus, l'avenir de...
Parce que vous avez pardonné à vos parents, vous imaginez qu'ils seront capables de faire la même chose.
Ils n'ont pas le choix de toute façon.
Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un truc que vous faites beaucoup dans le spectacle Focus, c'est-à-dire commencer des phrases très dangereuses et les continuer par le mot « mais ». On fait la même chose, on explore vos contradictions.
Verino, vous êtes né à Nancy, mais...
Mais... Rien, il n'y a pas de « mais », mais j'aurais pu naître à l'Axou si ma mère avait accouché plus vite.
Bah oui, vous êtes végétarien, mais...
Parfois, je mange de la viande.
Vous avez trois garçons, mais...
Mais il n'y en a pas un seul qui me ressemble, c'est trois grands blonds.
C'est trois grands blonds, mais vous n'êtes pas si petit. Vos vidéos « Dis donc Internet » dans lesquelles vous parlez d'actu et que vous tournez en public chaque vendredi depuis bientôt 10 ans cumulent 150 millions de vues, mais...
Mais j'ai des collègues qui font ça en une vidéo. Hein.
150 millions de vues ?
Alors, peut-être pas à ce point-là,
peut-être pas.
Mais ouais, ouais.
Vous n'êtes pas souvent dans les médias, mais...
Mais je suis très heureux quand j'y suis et je choisis les émissions dans lesquelles je vais.
Oh, c'est un luxe, c'est un luxe.
Pas, oui. Vous écoutez parfois des podcasts de gens avec qui vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout d'accord pour connaître leurs arguments, mais...
Mais je finis par être d'accord avec eux et alors ça ne nous arrange pas du tout.
Vous êtes un homme blanc, hétéro, cis, genre en couple avec la même femme depuis que vous avez 14 ans et vous avez des enfants, mais...
Mais il n'y a pas de mais, je ne vois pas le problème, où est-ce que vous voulez m'emmener? Mais j'essaie d'être progressiste.
Et vous vous déplacez en roue électrique, peut-être on peut décrire ça, c'est une roue, c'est une seule roue?
C'est comme un monocycle avec une pédale de chaque côté qui te permet de planer, de
voler,
de skier dans Paris. Quoi.
Donc vous vous déplacez en roue électrique, mais...
Et Marie trouve ça très ringard, mais...
Mais bien sûr. Je comprends, mais évidemment, l'image n'est pas géniale. En attendant, c'est vrai que quand tu mets 3 minutes à la place de 12 pour un trajet, je te jure que ta vie, elle va beaucoup plus vite. Cela dit, mais j'ai des problèmes de dos et je suis obligé de marcher plus souvent qu'avant.
Oh, c'est triste. Mais cela dit, moi, je trouve ça magnifique des gens qui assument le monoroue. Merci, Verino.
J'ai cru que c'était le mal de dos.
Et le mal de dos, enfin, c'est pas... Vous êtes marrant. Dans cette émission, on essaye de débusquer les engagements des gens. Humoristes engagés, c'est des mots qui peuvent faire peur aux humoristes eux-mêmes. Et pourtant, on vous entend de plus en plus, notamment sur l'écologie. Vous, vous dites « je suis nul, mais j'essaie ». Et surtout, les gens qui tapent sur les autres qui sont en train d'essayer, ça vous énerve. On va parler de ça dans quelques minutes, puis vous nous ferez quelques petites blagues sur l'urgence climatique et le fait qu'on est dans la mouille, ça va être super. Par ailleurs, vous êtes très très pas fort en kitesurf et c'est hilarant, on veut vous accompagner dans cette douleur et c'est pour ça qu'on demande à vous qui nous écoutez.
Quel sport vous a vraiment maltraité, toi Marie par exemple?
Alors au début je voulais parler d'optimiste, parce que je me suis rarement pris une barre en fer dans le visage plusieurs fois de suite ailleurs qu'en faisant de l'optimiste à l'âge de 8 ans. Et puis j'ai repensé à ce moment, en gym, en 5e, où il y avait deux classes qui me regardaient, puisque la classe d'après avait de l'avance, et où j'avais pas mis mon t-shirt dans mon pantalon, où j'ai fait un appui tendu renversé,
oh yes,
et où 62 personnes ont vu mes petits seins de personnes de 13 ans. Voilà, c'était, c'était pour que vous vous sentiez bien, Verino, dans votre honte.
Je trouve ça génial. Mais en ayant vieilli, maintenant, on se dit, mais c'est tellement anecdotique, mais c'est tellement traumatisant sur le moment.
Bon, bah alors, en tout cas, vous, quel sport vous a vraiment maltraité? Continuez de nous écrire sur WhatsApp, 01 45 24 7000, c'est le numéro, où il y a l'Instagram de l'émission, jusqu'ici tout va bien, _ France Inter.
Et en attendant de vous lire et d'entendre vos moments de solitude vécus dans un sport ou dans un autre, on se réconforte avec Voyou, qui lui aussi chante la solitude, c'est Seul, sur France Inter.
Il y a des jours où tout m'irrite, où je ne veux plus parler, où les gens vont bien trop vite, pour atteindre mes idées. J'ai les humeurs en panique, des envies de tout casser, pas la peine de me dicter comment faire et quoi penser. Je m'isole, loin du sol, là-haut dans une montagne, à faire des vagues, loin de vos marées. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au seuil. Laissez-moi seul ce soir, des jours où tout m'inquiète, quand j'entends le genre d'idée qu'on enfonce dans la tête des gens mal illuminés. Y a des choses qu'on accepte tant qu'elles sont pas sous le nez. Ça me fait des maux de tête et des envies d'exploser.
m'isole. Loin du sol, là-haut dans une montagne, je ferai mes vagues loin de leur marée. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au sol. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts. Pour l'heure en moi, ça bouillonne, j'ai la soupape qui déconne, j'ai les humeurs changeantes, la gorge en panche et les jambes en coton. Ma répartie m'abandonne, perdu les phrases qui pardonnent, mais je ne vous en veux pas, j'ai compris ce qui n'allait pas chez moi.
Des voyous avec Seul sur France Inter.
Tu peux pas partir du principe que les gens sont trop cons pour comprendre dans la vie. Et à un moment, tu dois partir du principe que c'est toi qui es trop con pour expliquer. Vous avez compris ce que je veux dire ? Vous êtes trop con pour comprendre.
J'ai essayé de faire du sport l'année dernière.
Bah rien que la phrase, elle veut tout dire déjà. Hein.
J'ai essayé de faire du sport, ça veut dire que j'ai pas réussi. L'année dernière, ça veut dire qu'il s'est rien passé depuis.
Je sais pas si vous avez vu le rapport du GIEC qui est sorti. Petit résumé, c'est la merde, on va mourir. Voilà. C'est...
On voit que vous y connaissez vraiment en climat, Verino, quand on vous entend dire
ça. C'est la merde, on va mourir.
On vient d'entendre le teaser de votre spectacle très drôle qui s'appelle donc Focus. Vous êtes
mon prochain plus spectacle d'ailleurs, parce que c'est les toutes dernières. Ouais. Le 5 juillet à l'Olympia, c'est la dernière et après je ne jouerai plus ce spectacle.
Il reste 6 dates et après terminé, bonsoir. Vous êtes humoriste pour ceux qui l'ignorent encore. Depuis longtemps, vous êtes emparé de sujets comme le climat. Tous les vendredis, vous produisez par ailleurs une vidéo pour YouTube que vous tournez en public. Vous la tournez même dos au public, où vous parlez d'actu avec ce petit ton mordon qu'on vous connaît, mordant, et il n'y a rien qui semble vous faire peur. Mais tout ça n'a pas commencé comme ça pour vous. Au début, vous faisiez plutôt des blagues sur le fait de faire ses courses en ligne, et c'est vrai que c'est rigolo de faire ses courses en ligne, ou de faire la queue à la Fnac. Quand est-ce que ça a changé, ça, le fait de pouvoir s'emparer de sujets moins neutres, parfois un petit peu plus clivants?
Je vais faire un petit cours d'histoire de Verino.
Verino,
quand il était comique au début, il avait très envie de faire rire beaucoup de gens, et il avait très très peur de décevoir ou de blesser des gens. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Beaucoup moins maintenant, parce que je me rends compte que parfois les gens ils sont blessés. Et tu te dis, bah oui, mais là vraiment, j'ai pas voulu quoi. Je suis désolé de t'avoir fait de la peine, mais c'est pas grave. Mais au tout début d'une carrière, on a très envie de convaincre. On sait qu'on a très très peu de chances de faire rire beaucoup de gens. Et donc, l'idée, c'est au moins de pas blesser ceux qui peuvent être sensibles à ce qu'on fait. Et puis, en fait, quand j'ai lancé Dis donc Internet, les vidéos que je fais sur YouTube...
Depuis 2015,
janvier 2015. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée avec... c'est Marine qui était en première partie de mon spectacle ce soir-là, qui me dit, mais regarde, t'as l'écran géant, si tu te retournes... Je me souviens plus de ce passage. Chaque fois, je dis que c'est moi qui ai inventé ce truc-là. Et Marine, elle me dit, non, j'étais là, et je crois bien que c'est moi. Et donc, je rends à César ce qui est à César, et on se retrouve avec ce concept-là. Mais donc, pour le tournage, le premier tournage, je le fais le 31 décembre 2014, je le tourne, je le mets en ligne le 2 janvier 2015. 15 jours après, il y a les attentats de Charlie Hebdo et je me retrouve à devoir m'emparer de ce sujet-là parce que tu peux pas faire des vidéos d'actu un peu anecdotiques. C'était ça mon idée à la base.
Passer complètement à côté de l'actu.
Éviter de parler de Charlie Hebdo. J'ai réussi à faire des blagues sur ce truc-là ce moment qui était terrible et je crois que ça m'a fait un petit déclic où je me suis dit, je suis peut-être marrant même quand j'attaque des sujets durs.
Aujourd'hui, vous parlez de tout. Vous parlez de guerre, de racisme, vous vous moquez de vos enfants. C'est souvent des sujets interdits, des sujets pas faciles à aborder. Comment vous faites pour ne rien vous interdire sur scène? Comment? Donnez-moi tous vos secrets, Verino.
Mais Marine, mais vous le savez. Non, la vérité, c'est que déjà, je me moque pas. Pour le coup, c'est intéressant que tu aies utilisé ce mot-là parce que je me moque jamais.
De vos enfants?
Non.
Oh, tout de même.
Je me moque pas, je ris avec. Et tu noteras qu'à chaque sortie, c'est eux qui gagnent. Quand mon fils louche, c'est lui qui utilise son strabisme pour prendre la main sur la situation. C'est toujours l'enfant qui est gagnant dans l'histoire. C'est toujours, de toute façon, dans mes histoires, c'est toujours celui qui est attaqué qui est le gagnant. Il faut équilibrer les forces. Tu peux pas frapper quelqu'un à terre pendant un spectacle pendant une heure sans avoir de droit de réponse en face. Et je pense que c'est ça mon truc. C'est que moi, j'aime l'idée que mes enfants puissent voir mon spectacle plus tard en se disant « Ah, c'était ça qu'il était papa quand on avait 5-6 ans ». Et puis, en ayant cette conscience-là, bah, je l'ai aussi quand je parle des véganes. Je veux que on a tous un pote végane qui va beaucoup trop loin et qui nous casse les couilles. Et il a beau avoir raison, il nous casse les couilles. On a tous un pote qui mange de la viande et qui est hyper sympa. Et il a beau avoir tort, il est hyper sympa. Tout ça, je veux qu'on puisse se rencontrer dans le spectacle. Et je veux que tu puisses te prendre dans la gueule ta petite vérité sans être blessé par ta petite vérité. Parce que rions ensemble. Le rire, pour moi, n'est pas... Pardon, je te coupe. Le rire, pour moi, n'est pas une arme de domination, contrairement à ce que l'ensemble de l'univers essaie de nous faire croire en ce moment, où dès qu'il y a une blague qui va trop loin, on se sent blessé, humilié. Non, le rire, c'est une arme de partage, parfois maladroite, mais je pars du principe, en tout cas, moi, je sais que je suis de bonne volonté. Si je passe à côté, je passe à côté, mais en attendant, c'est pour ça que je m'attaque à tout, c'est que j'ai pas peur de rater. Parce que j'ai pas peur de dire pardon.
Et alors, dans le spectacle, justement, ça revient un petit peu au même. Vous dites que sur l'écologie, vous êtes pas parfait, mais vous essayez, par exemple que vous êtes végétarien en mangeant un peu de viande de temps en temps, ça c'est vraiment essayer fort, ouais. Ça vous rend dingue les gens qui reconnaissent pas que pour changer quelque chose, il faut commencer par des petits pas, qu'on peut pas être parfait du premier coup.
Mais c'est horrible, c'est horrible parce que la question écologique, c'est pour ça qu'on va droit dans le mur et que je suis très pessimiste sur l'avenir de notre espèce, c'est qu'en vérité, on a les gens qui sont engagés, on n'est jamais assez engagé pour les gens qui sont engagés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui est militant, il faut évidemment ne pas faire d'erreur sur le traitement de ce militantisme, parce que sinon ça veut dire qu'on s'approprie un sujet qu'on maîtrise pas assez et on n'est pas assez bon pour en parler, donc qui sommes-nous pour en parler? Le problème c'est que du coup, dans un sujet comme l'écologie, bah, les seuls qui en parlent c'est ceux qui sont impeccables, qui n'ont pas le droit à l'erreur. Dès qu'ils font une erreur, ils se font canarder parce qu'ils nous énervent, parce qu'ils sont censés être parfaits et qu'ils le sont pas. Nous, on va pas essayer de leur ressembler parce qu'ils nous énervent et qu'en plus ils sont beaucoup trop forts pour nous. Donc finalement on se coupe du discours des gens un peu médiocres, quoi. Moi j'admire la médiocrité qui agit. Je trouve ça dommage de se priver d'une action sous prétexte qu'on n'est pas bon. Bah, des fois, tu fais de ton mieux, en fait. Ça ne veut pas dire que tu seras génial, ça veut pas dire que tu seras nul. C'est pas à toi de juger. Agis, et ensuite tu verras. Et finalement, je crois que je suis un meilleur écolo que pas mal de monde.
Et vous dites que quand on choisit un combat, mais le véganisme, alors les gens en prennent pour leur grade là ce soir, mais il y a plein d'autres choses dans le spectacle. Il faut pouvoir l'assumer derrière, il faut pouvoir l'expliquer. Il ne faut pas répondre notamment des choses comme éduquez-vous ou
des choses. Ah, mais quel enfer.
Mais il y a des combats qu'on choisit.
Sur internet. Toi, renseigne-moi si t'as envie de m'aider à grandir, tu vois.
Mais Vérino, il y a des combats qu'on choisit pas trop. Par exemple, les femmes qui sont victimes de violences et qui finissent par parler au bout des années, elles ont pas choisi leur combat.
J'ai envie de partir sur une blague, mais je vais rester dans le premier degré. Oui, c'est vrai.
On n'a pas toujours l'obligation d'être diplomate dans ces combats, si.
Non, on n'a pas l'obligation de l'être, mais on est meilleur si on l'est. Moi, c'est ce que je me dis, c'est qu'on n'a pas du tout d'obligation. T'as pas d'obligation d'être de ne pas hurler sur tes enfants, mais je pense que t'obtiens plus de tes enfants en étant pédagogue, et t'obtiens plus des humains en étant pédagogue, même si c'est toi qui souffres, même si c'est toi qui t'es pris les chutes, même si c'est injuste, tu auras des meilleurs résultats en étant pédagogue.
La fin, donc. Et puis, vous dites que votre boulot, c'est de trouver le chemin du rire. Parfois, quand on cherche son chemin, on se perd. Parfois, on part dans la mauvaise direction pendant une bonne demi-heure. Vous en faites quoi de Marine, quand elle fait des randonnées, souvent, bah, elle n'est pas là, hein, au bout de la randonnée. Vous en faites quoi de ces sorties de route? Ça vous apprend quoi sur l'humour, sur vos blagues?
Bah, moi, je crois que le texte n'est qu'un prétexte et qu'une sortie de route, ça en raconte beaucoup sur ton cerveau. Moi, quand je vais voir un humain qui parle sur le plateau, en vérité, le rire, il est ultra secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, alors évidemment, il faut qu'il soit là, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est de naviguer dans le cerveau de la personne. Et quand je vois Marine qui teste un nouveau sketch et sur lequel elle n'est pas forcément à l'aise, en vérité, ce qui m'intéresse, c'est sa prise de risque.
J'étais sur ses randonnées. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de lire les messages des auditeurs et qu'est-ce que je vois?
Mais voilà, tu sais très bien. Tu sais très bien. Mais de la même manière que quand Marine me voit partir sur un truc en impro, en vrai, on avance, on fait et il n'y a pas de réussite sans prise de risque. Et ce qui est dommage, c'est justement la non-prise de risque. Aujourd'hui, si en humour, tu ne vas pas naviguer dans les eaux qui ne sont pas les tiennes, bah, tu finis par toujours livrer la même chose, tu finis par devenir exactement une caricature de toi-même, t'ennuyer, et puis enfin, c'est quoi la différence avec bosser au bureau toute la journée? Nous, ce qui nous intéresse, et je parle de nous parce qu'on est dans le même truc, c'est la création, c'est le risque et c'est la réussite, et parfois la réussite inespérée, c'est la sérendipité. Tu pars sur un truc, tu pensais que c'était ça que tu cherchais, puis c'est autre chose que tu trouves. Bah, tout ça, tu le trouves pas si tu restes assis dans ton canapé, quoi.
Et quand vous prenez des risques, vous faites par exemple du kitesurf, et c'est dans ces cas-là plutôt le kitesurf qui fait du Vérino, pardon pour le divulgachage de cette blague que vous retrouverez sur scène, pour que vous vous sentiez entouré d'une armée de gens qui perdent leur dignité quand ils font du sport. On vous a demandé, à vous qui nous écoutez, de faire un effort. Quel sport vous vous a vraiment maltraité, ça sent...
Le kitesurf Ah pardon, j'ai cru que c'était à moi.
C'était pour les auditeurs, Vérino. Non, ça sent vraiment la transpi dans les messages sur WhatsApp, là c'est assez impressionnant. On a Elsie qui nous dit, alors moi sans hésitation aucune, c'est le cheval. Des côtes cassées, le genou en vrac, mais telle une drogue, on y retourne. On prend même des chevaux à la maison. Bravo Elsie, c'est fait... félicitations.
Pas rentrer
vraiment
chez vous non plus, Elsie.
Peut-être dans son jardin, j'imagine. Oui.
C'est pour ça qu'ils ont les côtes pétées aussi, les chevaux, s'ils passent pas les portes.
Bah oui, c'est...
Non, je sais que c'était Elsie qui s'était pété les côtes, mais c'était pour ça la blague.
On a Laurine qui nous dit précisément, moi c'est le semi-marathon de Nîmes aujourd'hui, je ne sens plus mon corps ou trop. Voilà, bravo à vous Laurine, vous avez vécu un 1er mai épique visiblement, donc félicitations. Et puis on a reçu un message de Laïla.
Salut les mamas, c'est Laïla. Alors moi j'étais prise dans le cercle vicieux en primaire de ne jamais être choisie dans les premiers pour les équipes, plutôt parmi les deux derniers. Du coup, ben quand on est choisi, c'est avec la petite phrase « bon ben Laïla ». Forcément, ça donne pas envie de jouer très très bien, on n'est pas hyper motivé et du coup on joue mal. Du coup après on n'est pas choisi et puis on joue mal. Et puis on n'est pas choisi. Ben voilà. Allez, un gros bisou à tous les derniers.
Oh, c'est tragique, Laïla. Bisous aux derniers.
Normalement, on finit comique avec ce genre de.
Bah oui, Laïla, lance-toi dans l'humour. Hein. Je crois qu'il reste que ça. Mais en tout cas, vous, quel sport vous a vraiment maltraité ? Continuez de nous écrire ou de nous envoyer des messages vocaux sur WhatsApp 01 45 24 7000 ou l'Instagram de l'émission. Jusqu'ici, tout va bien. _ France Inter.
Oui, tout va bien, mais c'est bientôt l'heure de tirer le fil. Vérino, vous êtes passionné par la science-fiction. On l'aura compris depuis ce début d'émission. Vous connaissez un petit peu Marine Baousson. C'est elle qui nous l'a dit. Vous en lisez tout le temps de la science-fiction. On aurait pu vous présenter un auteur, mais on s'est dit non, le mieux, c'est de lui présenter un commandant de l'armée française.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que l'armée aussi adore la science-fiction. Elle embauche même des auteurs au sein de la Red Team.
Ça sera Passion Catastrophe sur France Inter avec le commandant Jean-Baptiste Collat.
Et avant de se lancer dans cette folle aventure, c'est Olivia Dean avec The Hardest Part sur France Inter. Call me up to me, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would I go back where we started? C'était Olivia Dean avec The Hardest Part.
Jusqu'ici, tout va bien. Marie Misset et Marine Baousson sur France Inter.
avec Vérino ce soir, qui est humoriste mais qui a aussi une curiosité à toute épreuve et adore la science-fiction. Humoriste et auteur de science-fiction, c'est presque le même métier. Finalement, il faut tirer une idée le plus loin possible. C'est comme ça que je vois ça un peu. Une capacité que l'armée a bien compris en créant le programme de la Red Team, embaucher des auteurs de science-fiction pour envisager le pire. C'est ce fil de la Red Team qu'on a décidé de tirer ce soir.
C'est Passion Catastrophe sur France Inter, introduite aujourd'hui par la bande-annonce de Terminator, où quand un récit de science-fiction où le futur est convoqué pour régler des conflits à venir, les conflits à venir télescopent notre réalité.
Je deviens folle. Tu l'as tué, comment peut-il se relever?
Ce n'est pas un homme, c'est une machine.
Des êtres comme ça, ça n'existe pas.
C'est vrai, pas avant 40 ans.
Tu veux dire que tu viens du futur?
Ils sont là pour se battre. Celle dont dépend leur avenir pourra-t-elle être sauvée?
Bonjour, commandant Jean-Baptiste Collat.
Bonjour.
Une start-up basée sur les scripts Google a 15 ans, un système de communication chiffré pour les soldats devenu aujourd'hui un outil essentiel pour l'opération Sentinelle en France. Le décollage de l'homme volant, Frankie Zapata, sur les Champs-Élysées en 2019, vous êtes un militaire qui n'hésite pas à s'affranchir des codes. Et c'est peut-être pour cette raison qu'au sein de l'Agence de l'innovation de défense, vous êtes le coordinateur de la Red Team. Et je viens de découvrir qu'il existe un patch Red Team que vous portez sur votre chemise.
Et que tu vas voler probablement.
Bien sûr, ça a été
commandant,
lancé.
C'est très judicieux.
Pas une bonne idée. Lancé en 2020 par le ministère des Armées. Alors la Red Team rassemble une dizaine d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs, de designers de science-fiction qui sont chargés d'imaginer des récits de science-fiction qui doivent mettre à mal la France et ses intérêts à l'horizon 2030-2060, j'imagine, pour que l'armée puisse préparer des scénarios pour envisager le pire pour le contrarier. Vous expliquez, commandant Collat, que c'est en se rendant aux Utopiales, qui est un formidable rendez-vous festival dédié à la science-fiction, que le directeur de l'Agence de l'innovation de la défense a mesuré tout le potentiel de la SF appliqué à la défense. Les gens n'ont pas assez d'imagination dans l'armée pour qu'on fasse appel à des auteurs de science-fiction.
Alors, je pense que les gens, en règle générale, n'ont pas assez d'imagination. Et que ce n'est pas un problème que dans les armées, hein, on le voit dans toute la société. Aujourd'hui, on est confronté à nos biais, on est confronté à notre quotidien. Et pour imaginer l'avenir et avancer dans un monde qui est de plus en plus incertain, il faut aller chercher des gens qui imaginent différemment, qui ont des angles de vue différents. Et donc, ça a été la force des armées, avec Emmanuel Kiva, qui est actuellement le délégué général pour l'armement, de lancer un programme qui permette finalement de sortir les armées de son bocal et d'aller voir ailleurs des choses qu'on n'aurait pas forcément vues si on était resté centré sur nos problèmes.
Et alors concrètement, comment elle fonctionne cette Red Team? Vous leur avez donné une habilitation secret défense pour que leur scénario soit en prise avec des données réelles de la défense?
Alors c'est un programme, c'est vrai, quand on en parle comme ça, on se dit mais c'est un peu farfelu, pourquoi les armées ont lancé cette chose-là? Non, c'est un programme qui est extrêmement sérieux, qui est lié à une méthodologie, qui est associée notamment à une université qui s'appelle Paris Sciences et Lettres. Et donc l'idée c'est d'aller voir le monde académique, d'aller voir le monde de la culture et de se dire comment on les fait travailler pour imaginer justement des choses différentes. Et tout l'intérêt a été de dire mais on va vous donner de la matière à ces auteurs, de la matière qui est la plus réaliste possible par rapport aux problématiques militaires. Donc, l'intérêt, c'est de les habiliter au niveau secret défense, tout à fait, de manière à ce qu'ils puissent visiter des bases. Alors, ils ont été dans des sous-marins, ils ont été voir des avions, ils ont été dans des bases secrètes.
Mais ils ont été sur la Lune.
On n'a
jamais allé sur la Lune. C'est très bien.
Ne fais pas la Terre est plate.
et donc, ils ont eu plein de choses pour justement se pencher sur nos problématiques. Parce qu'il faut savoir que parfois, ils nous ont inventé des trucs qui existaient déjà. Mm. Et donc, ils ont pensé que c'était très science-fiction. On leur dit mais
non. Petite cuillère.
Non, je te jure, il y en a déjà. Donc il s'agissait de leur donner vraiment une prise avec nos problématiques.
Et les auteurs, ils sont jamais réticents à l'idée de travailler pour l'armée quand vous les contactez?
Ils sont jamais rémunérés.
Alors, il faut savoir, on les a pas obligés à venir. Hein. Déjà, il y a eu un appel, ce qu'on appelle un appel global qui a été lancé à l'époque par le ministre des Armées. Alors, pas sur Pôle emploi, on l'a fait sur le site internet de la Red Team Défense. D'ailleurs, vous pouvez y aller, redteamdefense.org. Et sur ce site internet, on a proposé justement à des auteurs de science-fiction de s'inscrire et de déposer leur CV. Alors, au début, on pensait qu'on allait en recevoir une dizaine. Et puis, on a reçu plus d'un millier, donc on a fait un gros tri et puis on a raffiné et à la fin on a retrouvé une cinquantaine de profils et ils étaient tous très contents de venir. Ils nous ont dit non, mais pour une fois qu'on peut travailler pour la nation et pour la défense sans porter un fusil, on vient quoi.
Voilà. Avec notre imagination. Donc vous, Vérino, vous êtes passionné par la science-fiction, vous en lisez beaucoup je crois. Est-ce qu'il y a un scénario que vous avez lu il n'y a pas longtemps que vous aimeriez que l'armée française lise aussi pour se préparer au pire ou à quelque chose?
C'est une bien bonne question ça. Non, je crois que à mon avis... Oui, il y a des tas de trucs hyper effrayants. j'en ai pas en tête immédiatement.
Mais ça vous étonne pas en tout cas ce
recours. Ah non, pas du tout, c'est tout à fait logique.
À des auteurs de science-fiction.
Et oui, il y a des auteurs qui sont trop forts. Je m'en fous, je finis ma phrase.
Vas-y, finissez.
Il y a des auteurs qui sont tellement puissants qu'effectivement, tu réalises, là, je viens de finir un bouquin, j'ai perdu l'auteur, mais où il y a une guerre atomique qui est arrivée. Putain, j'ai vraiment 8 ans, je suis pas capable
quand
de finir
une phrase. Quand il a pas son texte, avec... après, c'est galère.
J'ai besoin d'un verbe du premier groupe. Et en fait, la moitié de la population parisienne a été décimée. Et les survivants vivent dans les couloirs du métro. Et en fait, on est 150 ans plus tard, les gens ont oublié ce que c'était que l'extérieur, quand il y en a un qui essaie de sortir, et radiation. Et donc, il y a toute une nouvelle société qui s'est créée, je crois que ça s'appelle Rive Droite et Rive Gauche.
Oui, parce qu'on garde quand même les rives droite et gauche.
Mais tu te retrouves dans un...
Paris change pas tant que ça.
Mais parce qu'elles se croisent pas au début, ces populations. Et donc, c'est toute une humanité qui se développe différemment. Pas de lumière, donc...
En fait, moi, là, je vous entends parler, mais donc, du coup, ça, c'est un livre que vous racontez, Vérino.
Oui,
mais là, si l'armée se prépare à ce genre de truc que vous racontez, et si l'armée l'envisage, c'est qu'en fait, Independence Day, Alien, Stargate, tout ça, c'est possible, en fait. C'est-à-dire qu'on peut y croire. Là vous avez, ouais. Ce que vous êtes en train de me dire, là, monsieur, c'est que vraiment, je vais plus dormir pendant très longtemps.
le travail des armées, et notamment des armées françaises, c'est d'anticiper. Et d'anticiper tous les scénarios possibles. Donc, rien n'est laissé de côté.
Oui, il ne faut pas le dire à Marine. Vous pouvez anticiper, mais il ne faut pas le dire à Marine.
Il y en a plein qu'on ne publie pas, donc ça va.
Oui,
vous pouvez continuer
parce
à dormir un petit peu.
Parce que ça, il y a des livres aux éditions Équateur qui sortent à la fin de chaque saison. C'est
tout
rigolo, ça s'appelle comme ça de la Red Team, mais il n'y a pas tout dedans. Il n'y a pas tout, ce qui est très inquiétant, parce que ce qu'il y a, c'est déjà assez inquiétant. Dans le livre qui synthétise les idées de la Red Team pour cette saison 3, il y a deux idées majeures. Il y a celle d'un implant cérébral destiné à l'acquisition de compétences, et il y a tout l'enjeu de la ruée vers l'espace. Qu'est-ce que l'armée fait de ces scénarios après? Qu'est-ce qui se passe?
Elle les envoie à Elon Musk, invisiblement, parce que c'est quand même ces deux entreprises.
Alors, ce qui est très important, c'est cette capacité justement à pouvoir aussi travailler avec l'ensemble de la nation. Et donc ce livre-là, il est très important pour nous parce qu'il permet d'intéresser des gens à des sujets de défense qui n'auraient pas forcément été connectés aux armées au départ. Il faut savoir qu'il y a aussi une question d'œuvre vis-à-vis notamment des blessés de guerre, parce qu'une partie des bénéfices des livres sont reversés aux blessés de guerre. Donc il y avait aussi cette capacité à faire du lien armée-nation et puis de ramener ces sujets de défense au cœur des préoccupations de la France. Donc derrière, ces sujets-là, tout le monde s'en empare. Et le but, c'est pas que les armées qui s'en emparent. Demain, si on veut gagner la guerre, on le voit en Ukraine, on le voit sur plein de théâtres d'opérations, c'est pas que les armées qui permettent au pays de gagner, c'est l'ensemble de la nation. Donc comment est-ce qu'on réintéresse des start-up, des entreprises, des centres de recherche, des think tanks, des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de penser à ces problématiques sur, eh bien justement, ces nouveaux sujets. Donc les armées vont y travailler, et ça c'est très important. On a énormément, au sein de nos ingénieurs, au sein de nos officiers, au sein de nos chercheurs, plein de gens qui travaillent dessus à plein temps. Et puis l'idée, c'est que d'autres personnes s'emparent de ces sujets pour que demain, on travaille tous ensemble à garantir justement que la démocratie soit toujours là demain et que la France continue à gagner les guerres.
Et Vérino, si vous deviez postuler en tant qu'humoriste pour rentrer dans la Red Team, quelles seraient vos forces pour cette mission?
En vrai, je pense que je ne servirai à rien. Je serais juste le gars à côté qui écoute les gens et qui fait « Ah ouais, ah ouais, ah ça c'est bien ». Moi, je serais metteur de bonne humeur et booster de confiance.
Il en faut beaucoup.
Mais j'y pense, Jean-Baptiste Collas, parce que quand on pense à South Park, aux Simpsons, il y a eu beaucoup des scénarios catastrophes qui sont arrivés dans la vraie vie, qui avaient été prévus par eux des saisons
avant. Mais ils ont fait 30 000 saisons.
Ils ont quasiment tout inventé.
C'est tout, hein.
Mais ça vous intéresserait pas d'embaucher des auteurs, des humoristes aussi dans cette équipe?
Alors, faut savoir qu'on a déjà fait appel à des magiciens, des mentalistes. Donc on n'est pas fermé. Hein, et le but, encore une fois, c'est d'aller chercher des gens qui pensent différemment.
Ça veut pas dire. C'est des gens qui vont dire oh non, une catastrophe, ça va sur le monde. Regardez un lapin qui vient de sortir de mon chapeau.
Non, alors les magiciens sont très forts pour détourner l'attention.
Ouais.
Et vous savez, dans la guerre de l'information, dans la manipulation de l'information, tout le but de nos ennemis, c'est de détourner l'attention ou de l'attirer sur des choses sur lesquelles on ne veut pas aller. Et ça, les magiciens sont très forts. Et quand on comprend comment ça fonctionne, et ben on peut justement, à l'inverse,
créer
déjouer, des manœuvres ou déjouer des stratégies qui pourraient être utilisées contre la France.
Et il y a d'ailleurs un scénario de la Red Team de la première saison, je crois, où c'est une guerre d'information qui est mise en œuvre, où chacun vit dans sa safe sphère.
Ouais, chronique d'une mort culturelle annoncée.
Voilà, chronique d'une mort culturelle annoncée, où personne ne sait ce qui se passe en dehors de ce qu'il a envie de lire, de ce qu'il a envie d'entendre. Et là, on se dit que la science-fiction n'est quand même
c'est plus très drôle,
loin de ce qu'on vit avec la guerre en Ukraine, de ce qu'on vit avec...
Exactement. Il date de quand, ce scénario?
2021.
Ouais.
Et pour terminer, monsieur le commandant, le nom Red Team, vous avez du temps à le trouver? Parce que c'est sûr que équipe rouge, ça marche moins bien que la Red Team.
Alors, on nous a beaucoup posé cette question. Alors, il faut savoir que Red Team, c'est un peu un nom consacré, notamment dans toute la partie cyberdéfense. Créer la Red Team, c'est un peu les gens qui prennent les habits des méchants. Et donc, nous, on voulait recréer un petit peu cette ambiance-là, et puis faire comprendre aux gens qui allaient venir dans cette équipe qu'ils ne devaient pas on va dire, imaginer que des scénarios de menace et faire peur. Il devait prendre les habits de l'ennemi et comprendre comment, eh bien, demain, les gens qui voudraient frapper fort la France, eh bien, comment ils feraient. Et donc, jouer l'ennemi, c'était aussi une manière de les mettre dans une posture mentale qui leur permette d'aller plus fort et de ne pas s'arrêter juste à des simples récits.
Est-ce que c'est ce que fait France Inter aussi avec ce rouge partout?
Ah ben moi, je suis très content ici. Hein, voilà, c'est vraiment, l'ambiance est parfaite. Merci.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous, commandant Cola. Je rappelle que vous coordonnez la Red Team constituée par le ministère des Armées à la recherche des scénarios catastrophes de demain, dont les dernières propositions viennent de paraître dans le volume 3 de ces guerres qui nous attendent. C'est aux éditions des Équateurs et vous êtes en train de m'offrir ce patch et je vais pleurer.
Non, il me l'offre à moi. Ok.
Et ben, je le jette au milieu de la table et on verra qui s'en sort.
Merci.
Pardon. Désolé.
Oh, le patch est par terre, c'est scandaleux. Vérino, avant de rejoindre...
Ils ne savent pas viser dans l'armée, ça c'est un truc qu'il faut noter.
Avant de rejoindre la Red Team, vous venez de nous parler de votre tournée des Grands Ducs. C'est la dernière fois que vous jouerez sur votre spectacle Focus. 6 dates à l'Olympia, au Grand Rex, au Trianon, au Casino de Paris, au Théâtre Antoine. Et je ne dis pas plus parce qu'en fait, elles sont pleines, les salles. Donc avec un peu de chance, vous trouverez des places, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est bientôt l'heure de vous imposer mon obsession, c'est-à-dire vos poils qui poussent dans vos oreilles. Non, en vrai, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes un homme de la Startup Nation. Vous êtes un entrepreneur, oui. On va en parler dans quelques minutes.
Et quant à moi, à 17h53, je vous raconterai comment j'ai entraîné mes doigts à faire des dérapages.
Voilà, non. Et puis on pense au grand Paul Auster.
Il y a beaucoup d'images qui me viennent.
Ce soir, puisqu'on a appris sa mort ce matin à Paul Auster. Ce soir à 20h, vous pourrez l'entendre dans la rediffusion de L'Heure Bleue avec Laure Adler. On lui dédie ce titre à lui qui nous a offert la trilogie new-yorkaise. On écoute Frank Sinatra avec New York. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. In that city that doesn't sleep, and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Da 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 da. In that city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the list, you bet. C'était Frank Sinatra avec New York. Une pensée pour Paul Auster dans Jusqu'ici, tout va bien, que vous retrouverez donc ce soir à partir de 20h, rediffusion de L'Heure Bleue avec Laure Adler et Paul Auster lui-même. Vérino, on parle de votre tournée des Grands Ducs, 6 dates dans des salles prestigieuses à Paris, pour terminer votre spectacle Focus, spectacle dans lequel vous nous parlez d'une expérience douloureuse de kitesurf. Vous qui avez fait un BTS sport, apparemment, vous ne maîtrisez plus beaucoup votre corps. On veut vous accompagner dans ce moment où votre ego a eu mal.
Et on vous demande quel sport vous a vraiment maltraité. Alors un peu comme toi, Marie, il y a Anaïs qui nous dit, moi c'est la voile, 10 ans de régate, des cicatrices partout, une dent en moins et tellement d'anecdotes, tu m'étonnes. Et puis on a reçu ce vocal de Louise.
Bonjour. Alors moi, clairement, le sport qui m'a victimisée, c'est l'escalade, avec qui j'ai vécu une histoire très intense. Comme beaucoup de gens, je me suis passionnée pour l'escalade et j'ai fini par me déboîter le coude en tombant d'un bloc bleu. Donc voilà, on voyait très bien sur la radio que l'os n'était pas du tout là où il aurait dû être. Je dis à tous les gens qui sont fous d'escalade, comme moi, puisque j'ai recommencé depuis, faites attention à vos coudes, les amis, car ça peut aller très très vite. Voilà, bonne émission.
Merci
Faites attention à vos coudes. Ouais. Ça, on gardera
ce message. Générale, hein,
je n'ai aucune idée de ce qu'est un bloc bleu, mais en tout cas, bravo, bravo, et puis bravo d'être retourné surtout. Et puis, je vais juste terminer avec un petit message de Dom qui nous dit « L'escrime, ma peau a tendance à vite marquer et le lendemain de chaque entraînement, je ressemble à une schtroumpfette tellement j'ai des bleus, mais j'adore ce sport. » Voilà. Mais en tout cas, voilà, merci pour tous vos messages.
J'ai envie de raconter une fois que j'ai fait un stage de clown, déjà pour vous faire rire, pour vous dire que
c'est
j'ai fait
du
un
sport,
stage de
mais
clown.
Oui,
mais je tapais dans mes mains comme ça, vous voyez, je tapais sur mes cuisses et dans mes mains pendant une bonne demi-heure et le lendemain, j'avais deux bleus gigantesques sur les paumes,
mais pas du tout sur le corps.
Sur les deux cuisses. C'était les bleus les plus ridicules que je me suis fait. C'est l'heure de vous imposer...
Merci de confirmer.
De rien, j'en ai plein d'autres. D'ici la fin de l'émission, ça peut ressortir. C'est l'heure de vous imposer mon obsession, Vérino. Vérino, vous êtes une sorte de grand chef de projet de l'humour, un homme qui aurait une start-up qui s'appellerait Vérino elle-même, et c'est ça mon obsession. Cette entreprise, elle a commencé parce que vous avez un jour appris qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant des blagues. Ni une, ni deux, vous allez taper à la porte d'un théâtre. Vous avez pris le premier théâtre sur votre route, le premier truc...
Mais vraiment, complètement. J'ai trouvé une annonce sur Internet qui disait « nous, on recherche des spectacles », et j'y suis allé, c'était la loge, qui s'appelait comme ça à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle La Petite Loge, théâtre de 20 places à Paris. Ma toute première, c'était chez eux.
Et comme ça, deux semaines après avoir appris qu'on pouvait gagner sa vie, vous vous êtes dit, je le fais?
Oh, pas tout à fait. Déjà, non, j'étais à Nancy à l'époque, donc je suis rentré. Depuis que j'ai 15 ans, je sais que je vais faire ce métier. Depuis que j'ai 8 ans, je me dis que je vais faire ce métier. Depuis que j'en ai 15, je sais qu'évidemment, je ferai rien d'autre parce que c'est trop une arnaque. Parler à des gens et faire rire des gens et qu'ensuite on t'applaudisse et qu'ensuite tu sois libre et que tu fasses ce que tu veux de ta vie, c'est merveilleux. Donc si c'est merveilleux, il faut que je le fasse. Et puis à partir du moment où je suis rentré dedans, évidemment, on se rend compte de ce que c'est l'exigence, le travail, la régularité. La différence entre tu fais rire tes copains une soirée où tout le monde a le même délire et tous les soirs tu fais rire des gens que tu connais pas dans une salle très vaste en étant hyper régulier et réussir, tout ça, c'est des choses qu'on découvre après. Mais à partir du moment où je me suis passionné par ce métier, oui, j'y suis allé à fond. J'ai atterri à Paris en 2004, j'ai fait mes premières scènes en 2005-2006 et puis depuis, je joue le plus possible, tout le temps, parce que j'aime ça.
Vous obéissez même à un certain mantra pour les gens qui entreprennent, hein, c'est vraiment un truc d'entrepreneur, le failing good, rater pour mieux réussir, ça a été quoi vos trucs ratés les plus réussis?
Mes trois enfants. Non, je crois que j'ai tout raté, moi. J'ai fait tous les festivals de France, je me suis planté partout, j'étais toujours le gars. En plus, moi, je suis le gars... Alors, on a un rapport un peu inverse dans nos métiers par rapport à ce qui se passe dans le monde normal, c'est que les mecs comme moi, on est finalement assez rares ou peut-être trop nombreux, et donc rare à être exposé. Donc, par exemple, moi, j'ai raté tout mon démarrage d'exposition de carrière en 2009-10, au moment où il y a de la place pour tout le monde. Bah, finalement, moi, j'ai pas réussi à me trouver la mienne, et c'est ce qui fait que je suis allé sur YouTube. Donc, et puis, c'est mes ratages de YouTube, parce que je parle du moment où la caméra était bon endroit, mais j'ai filmé 5 ou 6 vidéos en mettant les caméras partout avant de trouver le bon axe. Les blagues sont systématiquement mauvaises avant d'être bonnes. Enfin, ouais, je crois que j'ai rarement réussi grand chose dans ma vie, mais j'ai raté tellement de trucs que
vous avez pris des listes de mails avant tout le monde, ce qui vous a permis d'avoir une base de mails assez énorme pour vous organiser votre première Olympia tout seul, alors que votre équipe de prod vous disait de surtout pas le faire. C'était quoi l'idée à la base quand vous avez commencé à faire ce que tout le monde fait maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire sans devoir laisser son mail? Et vous l'avez fait bien avant.
2006, 2005, ma première date, je suis arrivé avec ça parce que je savais que ce métier était indispensable aussi, ce métier dans le métier. C'est-à-dire être un peu communicant et être un peu producteur, tout ça c'est nécessaire parce que j'avais pas la confiance ultime dans mes vannes, que je savais que je serais comme un relais français, tu vois. On n'est pas rapide comme les Américains, mais on sait se passer le bâton correctement, et donc on n'a pas les 4 sprinteurs les plus rapides, mais on est champion du monde à la fin. Et ben je c'est un peu ça que je fais.
Je savais pas qu'on était si fort en relais.
Mais on est des belles équipes. Et donc je suis pas le meilleur producteur, je suis pas le meilleur humoriste, je suis pas le meilleur auteur, je suis pas le meilleur sur scène, mais au final la sauce globale que je maîtrise, elle donne une expérience globale que j'aime. Et puis d'abord, enfin, quand tu joues devant des gens qui t'aiment, l'essentiel c'est de pouvoir leur dire quand tu rejoues, quoi. Et donc c'était ça ma base. Moi j'ai pas de truc, je voulais pas monter Amazon, hein.
Aujourd'hui vous avez une grande base de mails, ce que beaucoup de gens vous envient dans le monde. Et puis 2015, vous vous astreignez à sortir une vidéo par semaine pour parler de l'actualité. C'est pour jamais disparaître des radars, ça, ou pour se créer la contrainte d'une écriture permanente qui laisse pas de place à la
flemme.
Un peu des deux. D'abord, pas de place à la flemme, parce que déjà, je me rends compte que j'ai très facilement tendance à rien faire et que j'ai pas l'impression d'être plus reposé quand je fais rien que quand je fais des trucs. Donc, je me suis dit, au final, avec des petits enjeux, tu fais des trucs. Et puis oui, il y a ce moment-là où on est énormément d'humoristes et je me rendais compte qu'on se supplantait les uns les autres. C'est-à-dire que t'as trois semaines où t'es fan de Jérémy Ferrari, trois semaines où ensuite tu découvres Artus, trois semaines où tu découvres machin. Et puis en fait, c'était un peu le moment où les humoristes se remplaçaient les uns les autres et encore plus aujourd'hui avec les réseaux. Donc je suis très content d'être parti sur Internet parce que moi, mon idée, c'était en fait de m'auto-remplacer. Si tu m'aimes bien, chaque semaine, je vais te nourrir. Et puis donc ça m'oblige à...
C'est bien de s'auto-remplacer.
À travailler. Et ça m'oblige aussi à un autre truc, c'est de pas me sentir... Quand mes salles sont pleines, j'en suis fier parce que c'est un vrai boulot de base. Je travaille tout le temps, j'écris des blagues et les gens viennent me voir, pas parce que je suis connu, mais parce qu'ils connaissent mon travail et qu'ils aiment mes blagues. Et donc, tu montes sur scène avec la confiance du travail bien fait.
Dans ta salle, Verino, c'est même devenu une entreprise familiale. Je crois que votre femme écrit avec vous. Vous allez laisser à la...
Elle produit bientôt le spectacle aussi. Hein.
Voilà, vous allez la laisser à laquelle de votre fils, la boîte Verino. Il y aura une guerre de succession, comme dans Succession.
Non, absolument pas. Je leur laisserai rien. En vrai, je veux... je leur laisse de l'amour et puis une envie de fabriquer des choses aussi. Je veux pas, surtout pas qu'ils aient le poids dans Succession.
De devoir monter sur scène.
Du papa derrière, quelle horreur.
Il y en a une qui fait aussi beaucoup, beaucoup de choses ici, alors que moi, franchement, je fais une émission par jour ouvrée, je trouve ça déjà pas mal. Non, Marine Bausson, elle fait feu de tout bois. C'est l'heure de fraîcheur, Marine. Non, jusqu'ici, tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des skates de doigts.
Non,
c'est des
mini-skates.
Mais non, pas du tout, on s'en fout des skates de doigts. Il y a Verino qui est entré dans notre émission. Verino, je ne pouvais pas vous laisser passer ici sur France Inter sans dire que j'ai fait toutes vos premières parties pendant quelques années. J'ai calculé sur plus d'une centaine de dates en tout, avec une moyenne de salle de 500 personnes. Je pense qu'on peut dire facilement que j'ai joué grâce à vous devant 50 000 personnes. C'est la classe. Et comme là, je vous invite dans mon émission à écouter à plus d'un million de personnes par jour. Voilà, on n'est pas aux pièces, hein, mais vous me devez 950 000 personnes à la louche. En tout cas, on se connaît très bien. Hein, c'est la raison pour laquelle. Vous voyez, c'est vrai que c'est étrange, hein, tu trouves pas ma couillasse ?
Je trouve ma poule.
Et en fait, bon, je crois qu'en fait, on devrait jamais vous voyer des hommes qu'on a vus en slip une centaine de fois. Dans la loge, hein, je précise, hein, pendant que vous changiez, il y avait rien de plus entre nous, hein, même si c'est vrai que mon petit Kylian, il me demande chaque jour quand est-ce qu'il rencontrera enfin son papa. Hein. Bon, allez, c'est des détails, c'est les conséquences d'une belle complicité. Allez, on n'en parle plus. Donc vous êtes ici ce soir car vous nous offrez une tournée des Grands Ducs, hein, l'Olympia, le Grand Rex, le Trianon, le Théâtre Libre, le Théâtre Antoine, le Casino de Paris et étrangement, là, vous m'invitez pas à faire la première partie. Non, parce qu'autant quand il fallait aller jouer dans des villes paumées où on devait aller en prenant deux trains, un TER et faire 1h30 de voiture, hein, avant d'être accueilli par la programmatrice de la salle qui faisait « Bonjour, bienvenue, goûtez-moi la spécialité locale des tripes aux endives, vous m'en direz des nouvelles !» Là, je suis conviée, hein, mais salle prestigieuse, pas du tout. Hein.
Mais ouais, en fait, tu seras conviée.
Parce qu'en fait, si c'est par peur de me déranger parce que j'ai un emploi du temps trop chargé, tout ça, ça va. Hein. Moi, je suis libre, hein, donc paf, on se cale des dates, on se retrouve en loge, on passe une bonne soirée, j'enflamme l'Olympia, je rentre, j'annonce à Kylian que sa petite est en route et on passe tous bons copains, non ? Bon, évidemment, tout ça, c'est de l'humour, hein, pas de message caché, hein, tout ça, c'est des blagues, hein, je le jure sur la tête de Kylian, donc pas de pression, mais écoute-moi bien, petite salope. Si je fais pas le casino de Paris, c'est, j'ai des vidéos gênantes que j'hésiterai pas à diffuser sur les réseaux sociaux avec plaisir. Vidéo dans laquelle il se passe pas grand-chose, hein, vous êtes vraiment pas un déglingo en loge. Le truc le plus fou que je vous ai vu faire en loge, c'est jouer à la Switch, voilà, vous êtes tellement sage que même sur Mario Kart, vous respectez le code de la route. Non, mais en réalité, c'est vrai que c'est émouvant pour moi de vous voir faire cette tournée des grande salle parisienne. Je suis émue aussi parce que j'étais là pour votre première Olympia dont on a parlé tout à l'heure. Vous l'avez loué tout seul, sans votre prod, pour terminer votre premier spectacle en beauté. Vous vous étiez battu, vous aviez rempli votre salle avec des billets à 20 euros seulement. Et à votre arrivée sur scène, vous avez eu 10 minutes de standing ovation. C'était magique. À moins que les spectateurs de l'époque se soient mis debout pour protester, car là non plus, j'étais pas en première partie. Bon, on saura jamais. En tout cas, le doute plane. En vrai, à l'époque, je vous connaissais pas autant qu'aujourd'hui et je savais pas comment, mais je m'étais retrouvée avec vous dans le restaurant après le spectacle. Et je vous avais demandé de signer mon billet, et pendant que vous le signez, vous m'aviez dit, tu vois, on peut réussir dans ce métier en étant gentil. Ce à quoi j'avais répondu, ta gueule, j'ai stressé. Ces mots, en vrai, ils se sont gravés en moi et je les garde comme un mantra. Après, n'allez pas croire non plus que je fais une fixette sur vous et que je suis un peu trop fan. Hein. Vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à tout ce que je dis ou par rapport au fait que je dorme en cachette dans votre cage d'escalier depuis 8 ans pour sentir votre odeur le matin quand vous emmenez les enfants à l'école. D'ailleurs, le grand, il faudra lui changer les lunettes, il y a une monture qui se fragilise, j'ai l'impression. Bon, bref. Avec vous, Verino, j'ai toujours eu la sensation d'avoir un grand frère, un ami, un homme qui peut me prêter de l'argent, peut-être. Non, on verra. Je serai quand même là dans votre salle pour voir une 122e fois ce spectacle que j'aime tant, en me disant, c'est vrai qu'on peut réussir dans ce métier en étant gentil. Regardez, Fabrice Eboué, il y arrive bien. Merci, Verino.
Je ne sais pas quoi en
J'ai envie d'applaudir, mais c'est moi dont tu parlais. Oh, merci, Marine. Donc, il n'y a pas de skate.
Non, il n'y a pas de skate.
Je suis presque déçu.
Il y en a un dans le bureau, si vous voulez. Demain, je prenez l'emmener très très loin d'ici.
Bah, je reviendrai demain.
Ça me ferait plaisir. On retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle le 14 mai au théâtre de la Tour Eiffel, où elle présentera le Pride Comedy Show. Verino, on rigole. Depuis 17h08, ensemble, vous êtes ici pour nous parler de votre tournée des Grands Ducs. 6 dates qui sont pleines dans Paris pour vous montrer votre spectacle Focus. Vous êtes très drôle quand vous parlez de vos fils qui ont intérêt à avoir de l'humour. On sent que ça vous travaille pas mal quand même, cette histoire de paternité. On veut en savoir plus.
C'est l'interview Gros Daron.
Quelle phrase de Daron vous pensiez ne jamais dire et en fait vous la dites tout le temps?
Je la dis pas tout le temps, mais ça va barder. Le jour où elle est sortie, franchement, ça fait mal.
Votre enfant préféré, c'est lequel?
C'est le garçon.
Vous en avez trois. Le truc que vous avez transmis à vos trois fils?
Putain, j'en sais rien.
Pas l'humour, parce que vous dites que le second a zéro second degré.
Le second n'a pas encore de second degré, donc effectivement, il y a pas. Je crois que c'est l'amour de la famille.
C'est bien.
C'est trois gars qui s'aiment. C'est très beau de les voir.
Quelle punition vous donnez?
Pas grand chose, genre tu t'assois par terre et tu comptes jusqu'à 20. C'est juste assez pour que tu saches qu'il y a une punition, mais que tu sois pas humilié.
C'est bien ça, je prends ça. Ouais. Votre technique de papa pour faire dormir vos enfants?
Un petit coup derrière la nuque. Je leur mets du bruit rose profond. Je vous recommande ça à tous parce que ça les empêche de discuter.
C'est quoi du bruit rose? Je connaissais le bruit blanc.
Et c'est un peu plus agréable que le bruit blanc. Et surtout, mais s'ils veulent parler, ils parlent fort et donc on les entend. Et donc ils sont coincés, ils peuvent pas chuchoter.
Et quand est-ce que vous trouvez que c'est ok de leur mentir?
Tant que c'est pour leur bien et que il y a pas de... Tant que c'est pas malveillant.
Merci beaucoup Verino. Votre tournée des Grands Ducs, c'est 6 dates entre le 24 mai et le 5 juillet. C'est les dernières chances de voir votre spectacle Focus. Demain, on recevra Abraham Poincheval pour parler de lui-même parce qu'il est génial. C'était Jusqu'ici, tout va bien. Une émission préparée par Alexandre Gilardi, Louis Tempero, Clara Arconada et Laura Dumez. Gaëtan Collier était à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale. C'était Louis Audebert à la technique et Ludovic Asselot à la vidéo. Et on vous souhaite à tous un très bon 1er mai.
C'était Jusqu'ici tout va bien. Retrouvez tous les podcasts sur l'appli Radio France et franceinter.fr. Juste après les infos, les nuits d'Inter, la suite avec l'heure bleue de Laure Adler.
Je ferme les yeux, nous imaginons là, nous deux, entrelacés, lèvres asséchées par l'amour. L'amour de l'autre. Je rêve. Oh oui, je rêve. Je ressasse nos souvenirs que le temps tente désespérément de détruire. Se glisse un sourire et des larmes au coin de mes yeux. Comment penser l'avenir? Penser hier en guérir. Oh, je rêve. Je rêve, oh oui, je rêve que tu es là avec moi. Je rêve, oh oui, je rêve. Je sens dans ma poitrine mon cœur qui s'arrête. Je rêve et je fais mine
de n'avoir pas senti passer cette réalité qu'endormie, tu resteras, mais plus jamais à côté de moi. Je rêve, je rêve, ah, je rêve, oh oui, je rêve. Je ne fais que rêver, imaginer ton devenir. Si seulement t'avais laissé le temps de le construire. J'ai tant aimé t'aimer, je ne cesserai de le faire. Pour de la mort n'empêche pas de rêver. Alors je referme les yeux et je rêve. Je rêve, je rêve. Je rêve.